Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Jean-Baptiste Cocagne.
Des millions de personnes vivent dans une situation contraire à leur dignité, sont privées des droits fondamentaux et des biens de première nécessité. À l'approche du carême, le pape François invite les chrétiens à se dépouiller et à ouvrir courageusement de nouveaux chemins d'évangélisation et de promotion humaine. Compte rendu et commentaires dès le début de ce magazine. Une victoire pour les chrétiens palestiniens, la Cour suprême israélienne a stoppé, provisoirement, la construction d'un mur qui les déracinerait de leurs terres ancestrales en Cisjordanie occupée. Mais la bataille n'est pas pour autant terminée. Revers annoncé en revanche pour les mouvements de défense de la famille en Europe. Le rapport Lunacek a été adopté par le Parlement européen. Au nom de la lutte contre l'homophobie, le texte sous-entend que les mariages homosexuels devraient être reconnus par les États européens qui ne l'ont pas encore fait. Le premier message de carême du pape François a été rendu public ce mardi. Il est placé sous le signe de la pauvreté. Le thème est emprunté à la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, avec cette phrase « Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté ». Des paroles qui nous disent quel est le style de Dieu. Le Saint-Père souhaite que ce temps de carême trouve toute l'Église disposée et prête à témoigner du message évangélique à tous ceux qui sont dans la misère matérielle, morale et spirituelle. Olivier Bonnel.
La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n'est pas la pauvreté en soi. Cette pauvreté, grâce à laquelle il nous délivre et nous rend riches, c'est sa manière de nous aimer, de se faire proche de nous. Dieu n'a pas fait tomber sur nous le salut depuis le haut, comme le ferait celui qui donne en aumône de son superflu, avec un piétisme philanthropique. Jésus descend au contraire dans les eaux du Jourdain pour être au milieu des gens, de ceux qui ont besoin du pardon. Mais cette voie de la pauvreté vaut aussi pour nous. Les chrétiens sont appelés à regarder la misère de leurs frères, à la toucher, à la prendre sur eux et à œuvrer concrètement pour la soulager. Le pape François met cependant en garde contre l'aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas de mal. Il avertit que la richesse de Dieu ne peut nous rejoindre à travers notre richesse, mais toujours et seulement à travers notre pauvreté personnelle et communautaire. L'Église est donc invitée à soigner les plaies de la misère matérielle, morale et spirituelle qui enlaidissent le visage de l'humanité, à se battre contre les atteintes à la dignité humaine, les discriminations et les abus, à exiger une distribution équitable des richesses, à convertir les consciences à la justice, à l'égalité, à la sobriété et au partage. Combien de personnes, note le souverain pontife, n'ont pas de perspective pour l'avenir et ont perdu le sens de la vie? Combien de personnes subissent des conditions sociales injustes qui les conduisent à la misère morale, le vice et le péché, l'alcool, la drogue, le jeu ou la pornographie? Les chrétiens doivent répandre la bonne nouvelle pour consoler les cœurs brisés et donner l'espérance à tant de frères et de sœurs qui sont entourés de ténèbres.
Lors de la présentation du message mardi matin, aux côtés du cardinal Sarah, le président du conseil pontifical Corunum, était présent un couple parti en mission avec la Caritas pendant 3 ans et demi en Haïti. Anna et Davide ont fait le choix de partir avec leurs 2 jeunes enfants, qui avaient 8 mois et 2 ans et demi au moment de quitter l'Italie, et ils ont choisi de vivre comme les Haïtiens dans la pauvreté. Le message du pape pour le carême 2014 a donc un écho particulier pour eux.
Ce message nous donne du courage. L'idée de se faire proche aux plus petits, ça n'est plus seulement une idée, une bonne proposition, mais ça devient vraiment une indication, une orientation des vies concrètes. Renoncer à quelque chose de matériel pour le partager avec les autres.
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné finalement par rapport à ce que vous pensiez avant?
Je pense que la chose la plus difficile, ça a été la défiance que les Haïtiens avaient envers les étrangers en général, et donc nous-mêmes là inclus. Ça a été l'étape la plus difficile, hein, le véritable défi en effet de notre travail. Finalement, au cours des années, on avait mis en pied vraiment de belles relations. J'étais tombée malade par exemple, la femme qui nous aidait dans les ménages. Chez moi, qui initialement était vraiment hostile, je peux dire. Finalement, je l'ai bien aimée comme une sœur et ça a été la même chose pour elle. Mais ça nous a comporté pas mal d'efforts. Finalement, on sortait de la maison sur la rue à faire les courses comme ça, chez les marchands par la rue. Finalement, elle nous disait « Oh, ma sœur, bonjour ». Je disais finalement, après 3 ans, avant, il ne me parlait pas, il s'est tourné la tête de l'autre côté. Et ça a été un processus. Chaque jour, on ajoutait un petit morceau. Doucement, ça arrivait.
Pour notre famille, c'était une richesse parce que nous a donné la possibilité de nous renforcer comme famille. Parce que devant à des imprévus, devant des situations difficiles, on doit se lier pour continuer à avoir une tranquillité. pour nous, c'était une richesse aussi voir que les enfants apprennent à gérer les situations, qui toujours changent, les situations difficiles. Ça donne la possibilité aux personnes de la communauté de voir qu'on est là avec eux, on se met à côté d'eux, on n'est pas derrière une muraille. Non? Et là, je crois que c'est un peu ce qu'on a laissé, là, non? Qu'il y a une famille qui s'est mise à côté d'eux et qui a appris beaucoup, s'amuser beaucoup avec eux aussi. C'est un peuple qui a vécu une histoire très très difficile et c'est un peuple qui a beaucoup de difficultés à s'ouvrir aux étrangers. Nous avons vécu toute cette difficulté, mais c'est une difficulté qui petit à petit est disparue.
L'élection du pape François, est-ce que ça vous encourage dans votre choix? Est-ce que ça vous donne encore un nouvel élan?
Bien sûr, oui. Parce que tous les jours, pape François nous rappelle que le monde, c'est bien plus que notre petit endroit là où on vit. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde, François nous rappelle que c'est là qu'on doit chercher vraiment la réalité.
Anaï Davidé, de retour de leur mission de 3 ans et demi en Haïti. Et à propos d'Haïti, justement, le premier cardinal de l'histoire de ce pays, Mgr Chibli Langlois, l'évêque d'Ekaï, se retrouve médiateur pour tenter d'éviter une explosion politique dans son pays. L'Église catholique haïtienne parraine un dialogue entre parlementaires et membres du gouvernement dans l'espoir d'organiser des élections législatives, municipales et locales. Or, il y a urgence. Mgr Langlois souligne que 4 ans après le séisme de 2010, la majorité de la population haïtienne vit toujours dans une situation économique précaire. La situation est catastrophique. L'Église est très préoccupée et fait face aussi à des difficultés pour répondre à ses exigences pastorales. La cathédrale de Port-au-Prince, détruite par le séisme, est toujours en ruine. Si dans les démocraties occidentales, la presse est souvent entre les mains de groupes puissants et influents, à Cuba, elle est soumise, comme on le sait, à d'importantes restrictions de la part du parti unique. Et pourtant, le Vatican veut y croire. Il a convoqué cette semaine à La Havane plusieurs évêques d'Amérique centrale et des Caraïbes pour un séminaire consacré à la communication. 4 jours de conférence dans un pays où la communication est étroitement et rigoureusement contrôlée. Cyprien Viette.
La nouvelle n'est pas passée inaperçue. Un journaliste argentin va jusqu'à saluer le courage et l'audace du Vatican et de l'Église catholique cubaine, d'autant, signale-t-il, que la grogne monte à Cuba contre la presse officielle. Celle-ci est régulièrement attaquée avec des accents inédits, relayés notamment par une revue catholique, tenue par des laïcs, mais soutenue par l'archevêque de La Havane. Dans les colonnes de ce journal, un politologue a ainsi accusé la presse officielle de se limiter à rapporter le point de vue du gouvernement et de ne pas refléter les vrais problèmes et les préoccupations réelles de la population. Du jamais vu. Mais cette voix critique n'est pas la seule. Un écrivain renommé a pris sa plume pour fustiger l'immobilisme de la presse officielle. Elle continue, ironise-t-il, à appliquer des critères importés il y a plus de 20 ans d'Union soviétique. Elle est même en retrait par rapport aux orientations réformistes de Raúl Castro. À Cuba, on ne donne aucune information tant que le département idéologique du Parti communiste ne s'est pas prononcé. Quant aux Cubains, ils s'arrangent pour contourner les restrictions, d'autant que les nouvelles technologies rendent l'information incontrôlable. Dans ce domaine, l'Église est à l'avant-garde. Le séminaire qu'elle organise se concentrera sur ce que communiquer veut dire aujourd'hui. Pour Mgr Chelli, président du Conseil pontifical pour les communications sociales, ce séminaire est la preuve que les choses sont en train de changer à Cuba. Ce dicastère de la Curie romaine va d'ailleurs parrainer un cours de 2 ans destiné à 45 étudiants cubains.
La Cour suprême israélienne a une fois encore reporté la validation du tracé du mur de séparation qui mutilerait la vallée agricole de Crémizan, près de Bethléem. Elle couperait en deux les propriétés des Salésiens et délogerait 58 familles chrétiennes. Les juges ont demandé au procureur général d'expliquer avant le 10 avril pourquoi l'itinéraire de Crémizan ne pourrait pas être modifié et pourquoi les autorités israéliennes insistent tellement pour construire le mur à cet emplacement. Antonino Gallofaro.
La Cour suprême israélienne demande à l'État de développer son argumentaire. Une nouvelle audience est prévue le 30 juillet. Jusque-là, tout travail doit être stoppé. Le ministère de la Défense et le commandant de la Cisjordanie occupés sont sommés d'annuler les décisions de confiscation dans la vallée du Crémizan. Ce lieu est un microcosme éloquent qui prolonge et ajoute de sérieuses conséquences au conflit israélo-palestinien, souligne la conférence des évêques catholiques des États-Unis. Le président de la Commission épiscopale américaine pour la justice internationale et la paix a interpellé le
secrétaire d'État John Kerry au sujet de ce projet controversé. Il lui a demandé de faire pression sur le gouvernement d'Israël. Le tracé de la barrière de séparation menace un autre site emblématique palestinien, le village de Batir. Les terrasses agricoles de Batir, datant de l'époque romaine, sont considérées comme un prétendant sérieux au classement par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. La Haute Cour de justice a demandé au ministère israélien de la Défense de justifier d'ici le 27 février sa décision de faire passer le mur sur les terres de Batir.
Ce mercredi au Liban, l'église maronite publiera un document sur la situation nationale. Selon le quotidien libanais L'Orient le Jour, le patriarche Béchara Raï devrait annoncer le lancement d'une charte nationale basée sur les constantes nationales, les appréhensions, les souhaits et les priorités des Libanais. Cette charte, qui sera émise à l'issue de la réunion mensuelle des évêques maronites à Abkerké, était en préparation depuis août dernier. Elle est le résultat de longues rencontres avec tous les responsables libanais. En annonçant cette initiative ces jours derniers, le cardinal Raï a affirmé que la situation libanaise était très grave. Selon lui, les chrétiens doivent jouer leur rôle, surtout à la lumière des développements dans la région. Le patriarche maronite a par ailleurs appelé les responsables politiques à faciliter la formation d'un gouvernement rassembleur. La forte mobilisation des divers mouvements de défense de la famille n'y aura rien fait. Le rapport Lunacek, examiné au Parlement européen en séance plénière, a été adopté ce mardi par 394 voix pour et 176 contre. Ce rapport très controversé, rédigé par la députée européenne autrichienne Ulrike Lunacek, est présenté comme la feuille de route de l'Union européenne contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Mais les opposants dénoncent un projet visant à favoriser les revendications des lobbies LGBT généreusement financés. Ce rapport Lunacek entretiendrait par ailleurs une grande confusion, notamment en matière de genre ou de filiation. Nous avons recueilli la réaction de Maria Hildingson, secrétaire générale de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe, quelques instants après le vote.
Tout d'abord, je dirais que l'ambiance était relativement calme dans l'hémicycle, mais je pense que c'est le fruit d'une concertation préalable. On a vu une activité très forte, notamment sur les réseaux sociaux tels Twitter, sur ce rapport. Et nous savons que le rapport était soutenu par certains groupes politiques de manière très unanime, alors que d'autres groupes étaient partagés et encore, il y avait d'autres groupes qui étaient fortement opposés. Tout cela est un signe que c'est un sujet qui est tout sauf facile, tout sauf simple à traiter. Et je pense réellement qu'il y a une fracture qui est en train de s'opérer entre nos pays européens. À la lumière de tout cela, il est fort dommage de pousser cet agenda qui est par ailleurs poussé réellement par un lobby qui se réclame soutien des personnes homosexuelles, alors que nous savons très bien que beaucoup des personnes homosexuelles, d'une part, ne sont pas d'accord avec leur position et d'autre part, ne sont pas informées de ce qui est fait en leur propre nom. Donc il s'agit là d'une sorte de prise en otage de ces personnes contre leur gré, dans leur dos en quelque sorte.
Ce rapport n'est pas juridiquement contraignant, mais quelles sont les conséquences qu'il implique pour les familles ?
Tout d'abord, c'est un rapport qui est effectivement donc un rapport d'initiative. Cela veut dire que c'est le Parlement européen, à travers sa procédure législative, sa procédure politique, qui a pris l'initiative de ce rapport. Donc ce n'est pas une demande qui émane de la Commission européenne. Donc le rapport n'est pas contraignant. Cependant, on sait bien, et cela on a vu très récemment avec le rapport Estrella, par exemple, qui a été rejeté, et on a vu des réactions extrêmement fortes de ceux qui soutenaient ce rapport. Donc il est tout à fait évident que ce type de rapport sert tout de même à établir un certain nombre de droits implicites, s'ils le sont explicites, et donc faire accepter un agenda qui est fondé sur le désir individuel et qui n'a pas pour finalité le bien commun. Pour les familles, justement, qu'est-ce que cela implique ? La filiation qui s'inscrit dans la relation entre un homme et une femme, qui permet de donner naissance à un enfant, n'est pas reconnue par ce texte. Il y a également une tentative de faire reconnaître les différentes formes d'union, y compris le mariage, entre deux personnes de même sexe, en incitant les États membres à reconnaître les effets des documents d'état civil d'autres États membres qui auraient légiféré dans le sens de la loi Taubira, pour revenir au contexte français. Or, dans le domaine du droit de la famille, il ne peut y avoir de décision prise au niveau de l'Union européenne si on n'est pas dans une situation de majorité absolue. Cela veut dire que tous les États membres doivent être d'accord au niveau ministériel, donc au niveau gouvernemental, si l'on veut changer quelque chose en matière des droits de la famille.
Vous étiez fortement mobilisée contre ce rapport, on imagine votre déception aujourd'hui. Quel est le plan d'action que vous envisagez pour l'avenir ?
D'une part, nous allons bien entendu communiquer sur ce vote, mais nous avons aussi une échéance à moyen terme qui sont les élections européennes. Et nous allons lancer d'ici quelques semaines une campagne en vue des élections européennes. Donc nous mettons en place une plateforme internet qui sera disponible dans toutes les langues de l'Union européenne, afin que les citoyens puissent aller interpeller leurs candidats pour connaître leur position, savoir si les candidats aux élections européennes sont prêts à s'engager pour des politiques favorables à la famille.
Le gouvernement français a créé la surprise lundi en annonçant qu'il renonçait pour l'instant à soumettre son projet de loi sur la famille, projet de loi très contesté et fortement combattu, notamment par le collectif La Manif pour tous. Comment interprétez-vous, comment analysez-vous ce rétropédalage ?
Je me demande si ce n'est pas une manière pour le gouvernement d'apaiser tous ceux qui sont descendus dans la rue. Mais je ne pense pas que le gouvernement s'arrêtera à cela. Donc même si ce projet a été retiré pour l'instant, il reste encore quelques années avec le gouvernement actuel jusqu'aux prochaines élections. Et je ne serais pas étonnée de voir apparaître ce qui était annoncé dans le projet de loi dans d'autres textes législatifs. Donc je pense qu'il faut demeurer très vigilant. On ne peut pas se permettre de penser que c'est un acquis. Il y a un travail qu'il va falloir poursuivre et qui doit être poursuivi là où vit chacun, dans sa situation de vie, mais en restant vigilant.
Maria Hildingson, secrétaire générale de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe, interrogée par Manuela Affigy. En France, après le report par le gouvernement de la loi famille, la manif pour tous n'en a pas fini. Avec sa ténacité paisible, le mouvement a d'autres revendications urgentes, dont le retrait de l'ABCD Égalité, le programme scolaire qui vise à lutter contre les stéréotypes filles-garçons et qui est considéré par les militants de la Manif pour tous comme le cheval de Troie de la théorie du genre. Autre bataille centrale, le congé parental, dont les conditions ont été modifiées par la loi sur l'égalité et adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale. Également le retrait de la circulaire Taubira qui entend faciliter l'obtention d'un certificat de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de mères porteuses, ainsi que l'abrogation de la loi sur le mariage des couples de même sexe. L'organisation est déterminée à continuer ses actions dans la rue si nécessaire. Pour les évêques polonais, le matérialisme actuel semble parfois plus dangereux que les systèmes totalitaires auxquels les Polonais ont été confrontés dans le passé. Les évêques polonais qui se trouvent actuellement à Rome pour leur visite ad limina ont entamé leur rencontre avec le pape François et les dicastères de la curie romaine. En tout, une centaine d'évêques répartis en 5 groupes. Le primat a admis que les évêques qui ont grandi dans le contexte social du communisme avaient du mal à élaborer un nouveau style pastoral dans un système démocratique dominé par l'économie de marché. Les Polonais se disent toujours catholiques, mais ils ne vivent plus conformément aux valeurs chrétiennes. La pratique dominicale a baissé, le relativisme moral se répand, les unions libres augmentent, les naissances diminuent, tandis que le fossé s'élargit entre riches et pauvres. La nouvelle annoncée par le palais de Buckingham a été confirmée par le bureau de presse du Saint-Siège. La reine Elisabeth II rencontrera le pape François le 3 avril au Vatican. Elle sera accompagnée de son mari, le duc d'Édimbourg. Le couple, qui a considérablement réduit ses déplacements à l'étranger, se rendra à Rome à l'invitation du président italien Giorgio Napolitano, avec qui il aura un déjeuner privé au palais présidentiel avant l'audience au Vatican. Il s'agira de la première rencontre entre la reine Elisabeth II, qui est à la tête de l'Église d'Angleterre, et le pape François depuis sa désignation en mars 2013. Lors de la messe d'inauguration du pontificat actuel, le 19 mars 2013, le Royaume-Uni avait été représenté par le duc de Gloucester. La reine Elisabeth a donc saisi l'occasion de sa venue à Rome pour rencontrer le Saint-Père. En 2000, lors de sa dernière visite dans la Cité éternelle, elle avait été reçue par Jean-Paul II. En 2010, elle avait accueilli Benoît XVI au Royaume-Uni. En 1961, elle avait rencontré Jean XXIII. La reine Elisabeth et le prince Philippe doivent également effectuer une visite d'État en France, cette fois du 5 au 7 juin, à l'occasion des commémorations du 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci à tous de votre fidélité. Plus d'informations sur notre site internet www.radiovaticana.va. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau magazine de la rédaction francophone de Radio Vatican.